Jusqu'au milieu du 19e siècle, l'Italie n'est rien de plus qu'une expression géographique, selon le mot de Metternich. Mosaïque de royaumes, de duchés, de principautés, l'unité de l'Italie semble bien illusoire. Mais qui prendra la tête du mouvement d'unification? Quelle sera l'architecture de la nouvelle Italie? Une république suite à un soulèvement populaire pour Mazzini? Une confédération avec à sa tête le pape pour l'abbé Gioberti? Un royaume unifié sous le roi de Sardaigne pour Massimo d'Azeglio? L'Église joue en tout cas un rôle crucial dans ce processus d'unification marqué par des hauts et des bas.
Soyons sincères, il y a eu plus de bas qu'il y a eu de hauts. Enfin, néanmoins, le Vatican, c'est-à-dire Pie IX, dans les années 1845-1847, c'est lui quand même qui, une fois élevé au pontificat, a donné le point de départ, a donné le branle de cette immense transformation que sera le Risorgimento, et au-delà même de cela, du libéralisme européen. Le pape, dans ces années-là, a promu un certain nombre de réformes, qui n'étaient pas des réformes religieuses, qui étaient des réformes sociales et politiques, pratiquement la liberté de la presse et la liberté individuelle, des institutions représentatives, si bien que Pie IX a été, dans les années 1846-47, l'objet d'une très grande popularité, pour ne pas dire d'une vénération, de la part des partisans de l'unité italienne, aussi bien d'ailleurs l'abbé Gioberti, qui est lui-même un ecclésiastique, que des dirigeants libéraux, et notamment au Piémont, et même des républicains comme Mazzini. Mazzini n'était pas clérical, mais il était, à la différence de Garibaldi, il était très religieux. Donc il y a eu une grande popularité qui s'est manifestée, par exemple, à Parme. Dans la présentation de l'opéra L'Elegnano, il y a eu une manifestation à l'intérieur du théâtre au moment où le héros dit au sommo, je ne sais plus quel est le souverain qui portait au nu, le public réagit en disant au sommo Pio, au très grand Pio, il s'agit de Pie IX bien évidemment, et les manifestations de popularité à l'égard du pape vont se renouveler les jours suivants. La pièce marche à bureau fermé, c'est beaucoup plus que Nabucco. Nous avons une réaction du public qui est patriotique, qui est libérale, qui est en tout cas favorable à la politique menée par Pie IX. Point de départ de tous les mouvements qui, dans ce qu'on a appelé la première guerre d'indépendance, c'est-à-dire dans les années 1848-1849, vont s'étendre plus seulement aux États du pape, mais dans l'ensemble de l'Italie. Le roi des deux Siciles doit accorder une constitution, également le grand-duc de Toscane. Il y a également des réformes au Piémont. Et puis tout ça aboutit finalement à une grande effervescence et à une menace contre ce que les patriotes appellent les tyrans et à une première révolution qui a lieu à peu près dans toute l'Italie. Et là, dans cette première guerre d'indépendance, au début, Pie IX prend parti pour, entre guillemets, la révolution, en tout cas pour les libéraux, puisqu'il envoie, comme d'ailleurs le roi de Sicile, il envoie des troupes pour combattre aux côtés de Charles Albert, principalement contre les Autrichiens. Et puis, au milieu de cette quasi-révolution, avec participation des troupes pontificales, il va y avoir un revirement de la part du pape qui estime que bon, bah, ça va un peu trop loin, les réformes vont un petit peu trop loin, il va y avoir l'arrivée des Garibaldiens et des Mazziniens, surtout à Rome, la création de la République romaine, qui amène le départ de Pie IX. C'est qu'au moment où Mazzini est nommé triumvir avec deux autres à Rome, Pie IX est chassé en somme de sa capitale, de la ville sainte en tout cas. Il se réfugie donc à Gaète et de là, Pie IX va jouer le rôle d'un adversaire tout à fait résolu du Risorgimento. Le mouvement général, évidemment, qui va vers la gauche, qui va donc forcément vers un certain anticléricalisme. Et là, il y a un jeu de boule de neige où l'anticléricalisme nourrit la révolution, et la révolution nourrit l'anticléricalisme. D'autant qu'à partir d'un certain moment, l'armée pontificale, elle est du côté de la répression et elle fait la guerre contre les révolutionnaires, prenons le cas par exemple de la République romaine, alliée avec Ferdinand II, le roi des deux Siciles, les Autrichiens et d'autres alliés. Là, nous avons véritablement une opposition qui devient une opposition militaire, armée. Évidemment, il y a tout un aspect international qui entre quand même dans notre propos, c'est la politique de Napoléon III. À partir du moment où Napoléon III a besoin des catholiques pour se maintenir au pouvoir, et où les catholiques, je parle des catholiques français, mais en liaison quand même avec le Vatican, réagissent, menacent en fin de compte Louis-Napoléon, qui n'est pas l'empereur à ce moment-là, qui n'est encore que président de la République, à partir de ce moment-là, la France prend parti aux côtés du pape. Le prince-président, c'est-à-dire Louis-Napoléon, envoie à Rome un corps expéditionnaire qui est commandé par le général Oudinot et qui va faire le siège de Rome contre une armée qui est presque aussi nombreuse mais qui est beaucoup moins aguerrie, qui est surtout composée de volontaires, notamment les chemises rouges de Garibaldi, qui n'a pratiquement pas d'artillerie et qui sera finalement écrasée le 3 juin 1849. On aurait pu penser que le 5 juin 1849, le pape était là, revenait de Gaète. Il reprenait position dans son palais romain. Or, il ne l'a pas fait. Il est resté à Gaète pendant plusieurs mois. Il a envoyé trois cardinaux, qui étaient en somme ses légats dans sa propre capitale, et qui se sont chargés de remettre de l'ordre dans la maison de façon quelquefois très brutale. Hein. Il va être un ennemi acharné de tout ce qui peut toucher. Alors, aux états de l'Église, ils vont évidemment être rattachés à l'Italie une dizaine d'années plus tard, en 1860 et 1861, et à ce moment-là, le pape est quand même privé de ses états. Il n'est pas encore privé de sa capitale. Il conserve Rome sous la protection des Français, mais il perd ses états. La solution piémontaise est vraiment retenue, votée à une immense majorité.
Mais il faudra encore attendre 10 ans et l'entrée des troupes italiennes dans Rome le 20 septembre 1870 pour mettre fin à plus de 1000 ans d'histoire des états pontificaux et donner naissance à celle d'une toute jeune Italie unifiée.